Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Chers auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui s'occupe des questions de la vie au quotidien. Quelle est l'importance des méthodes contraceptives? Nous en parlons dans cette première tranche du magazine Okapi Service avec Dr Léonie Marini Atimango et Dr Tony Mayaoula Mayaki, respectivement chargé du programme Planification Familiale au Fonds des Nations Unies pour la Population NFPA et directeur exécutif intérimaire de l'Association pour le Bien-être Familial, ABF en sigle. Bonjour à vous deux et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci, bonjour, monsieur Tati.
Chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutoki réalise cette émission. Deb Servite est à la prise des sons et Paul Badianyama s'occupe pour sa part de l'édition multimédia de ces rendez-vous. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de cette première tranche du magazine des fêtes sociétés de Radio Okapi.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelle est l'importance des méthodes contraceptives? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Dr Léonie Marini Atimango et Dr Tony Mayaoula Mayaki. Nous rappelons que Dr Léonie, elle est chargée des planifications familiales au Fonds des Nations Unies pour la Population. Et Dr Tony, et lui, il est directeur exécutif intérimaire de l'Association pour le Bien-être Familial, ABF en sigle. Si ces sujets vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Le monde célèbre le 26 septembre de chaque année la journée mondiale de la contraception. Et pour l'édition 2025, le thème retenu est « Un choix pour nous, autonomie, intention, accès ». Elle est une occasion pour rappeler l'importance de l'éducation sexuelle et reproductive, notamment chez les jeunes, afin de leur permettre de faire des choix éclairés pour leur santé et leur avenir. Il faut également noter qu'une étude qualitative menée auprès des adolescents et enseignants ici à Kinshasa en 2023 démontre une faiblesse, une faible connaissance des méthodes contraceptives, et nombre d'utilisateurs préfèrent recourir aux méthodes naturelles par peur des effets secondaires. Quelle est alors l'importance des méthodes contraceptives? Nous abordons ces sujets dans cette première partie du magazine Okapi Service. Docteur Léonie, on va commencer par poser le décor. Qu'est-ce qu'on entend par les concepts méthodes contraceptives?
Merci beaucoup, Tati. C'est vrai. La contraception, ça, c'est un fait. Hein. C'est un fait. C'est un droit naturel, un droit qui est défini par des méthodes qui sont mises en place pour entraver, pour essayer de ne pas apporter une grossesse non voulue auprès de partenaires. Donc, ce sont des procédés, des procédures, des méthodes mise à la disposition des couples, des personnes qui sont sexuellement actives pour empêcher une grossesse non voulue.
C'est dans le cadre de la naissance désirable que la méthode ou les méthodes contraceptives sont utilisées.
Tout à fait. La contraception fait partie de la planification familiale, parce que la planification familiale est très vaste, mais le contexte contraception, ça, ce sont les différentes méthodes qui sont mises en place pour aider à planifier les naissances.
Docteur Tony, nous rappelons que vous êtes directeur exécutif intérimaire, hein, l'Association pour le bien-être familial. Il existe combien de méthodes contraceptives ?
Bien, merci Monsieur Tati pour la question posée. La communauté, les auditeurs et auditrices qui nous suivent, que ce soit à la radio et à la télévision, dans les téléspectateurs, doivent retenir ceci. Dans l'ensemble, nous avons deux types de méthodes contraceptives, des grands groupes de méthodes contraceptives. Nous avons des méthodes traditionnelles et des méthodes modernes. Dans les méthodes traditionnelles, je ne sais pas si vous le permettez, si nous pouvons déjà commencer à les décortiquer.
Tout à fait, naturellement, on est déjà dans le sujet.
Merci beaucoup. Nous avons les méthodes, comme je le disais tantôt, les méthodes traditionnelles. Dans les méthodes traditionnelles, nous avons les coïts interrompus et l'abstinence périodique. Les coïts interrompus, ce sont vraiment, comme les mots l'indiquent, les méthodes traditionnelles. Ce sont les méthodes que nos anciens, nos ancêtres utilisaient, c'est-à-dire quand au cours de la je dirais rapport avec les partenaires, l'homme fait en sorte pour libérer ses semences en dehors de la filière génitale de la femme. Ça, c'était les méthodes qui les gens, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines qui continuent à l'utiliser, mais vous conviendrez avec moi que c'est une méthode, je dirais, à risque, parce que c'est pas évident, lors de la copulation, d'avoir ces réflexes, ou bien vraiment cette capacité pour se retirer, et puis,
je dirais, entrer dans
l'appareil génital de la femme. À part les coïts interrompus, nous avons l'abstinence périodique. L'abstinence périodique, c'est, en fait, les couples s'arrangent à s'éviter pendant que la femme durant sa période de chaleur, disons comme ceci, donc pendant sa période de fertilité. Or, c'est pas aussi évident, je dirais, pour que pendant que la femme est durant sa période de fertilité, que les couples se séparent ou bien évitent les rapports. C'est ça les deux grandes, je dirais, méthodes à ce qui concerne les grands groupes des méthodes traditionnelles. À part les méthodes traditionnelles, nous avons des méthodes modernes. Dans les méthodes modernes, nous avons des méthodes naturelles et des méthodes artificielles. Dans les méthodes naturelles, nous avons une méthode qui est connue, la MAMA, méthode d'allaitement et d'aménorrhée. Donc, c'est une méthode qui exige, je dirais, un préalable, des préalables pour exploiter ou bien utiliser la méthode. La femme ou bien l'enfant doit être âgé de moins de 6 mois et la femme doit allaiter exclusivement l'enfant au sein. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un allaitement je dirais intensif de l'enfant pour permettre à ce que la femme ne puisse pas
concevoir
ou bien tomber enceinte. À part cette méthode naturelle, dans les grands groupes des méthodes modernes, nous avons la méthode connue communément, les Mayaka, jour fixe que les communautés, les femmes utilisent à travers un dispositif où il y a des pères qui ressemblent à un chapelet, bien évidemment. Peut-être le temps va nous faire défaut pour commencer à expliquer comment utiliser les chapelets en question. Donc retenez que nos téléspectateurs et nos auditeurs retiennent qu'il y a une méthode qu'on appelle jour fixe, on utilise les Mayaka. Et puis le troisième groupe ou bien le troisième type de méthode naturelle dans les grands groupes de méthodes modernes, nous avons le méthode auto-observation. Dans l'auto-observation, on observe la température basale, on observe les comportements de la glaire cervicale, on observe la consistance du col. Là, c'est la femme elle-même qui gère son col, son corps, je dirais, en observant comment les différentes parties de son corps se développent. C'est alors qu'elle saura qu'elle est durant sa période fertile ou non. Donc, la méthode exige vraiment des explications, des enseignements, la pédagogie à la cliente quand je parle de la cliente, c'est-à-dire nous en PEF, on parle de la cliente, on est de la patiente. Donc quand la cliente arrive...
Pour l'homme et la femme.
Et la femme, évidemment.
Qui sont vos clients.
Vos clients, nos clients, disons. Parce que si on parle seulement de la cliente, ça donne l'impression comme si la planification familiale concerne la femme.
Non, pas du tout, ça concerne l'homme et la femme.
Oui, ça concerne le couple homme-femme. Donc ça, c'est les trois différentes méthodes naturelles dans les grands groupes des méthodes modernes. À part les méthodes naturelles, nous avons des méthodes artificielles. Dans les méthodes artificielles, comme le mot l'indique, c'est là où la nature ou bien l'intelligence intervient pour agir. Là, nous avons des méthodes hormonales. Les méthodes hormonales, nous avons des méthodes à court durée d'action. Là, nous avons les COC, les comprimés, COC, POP, les pilules d'urgence. Les gens qui utilisent la PEF connaissent quand même quelque chose, mais les gens qui ne l'utilisent pas, ils ont la possibilité aussi à travers nous d'entrer vraiment en contact avec les produits dont je fais allusion ici. Donc à part le méthode
hormonale, on voit
hormonale,
par exemple ici docteur ici à Kinshasa dans la pharmacie des dames demander couramment les produits à l'aise par exemple.
Exactement. Ça, ce sont des méthodes hormonales à court durée d'action, à court durée d'action. Et puis ce sont des méthodes qui demandent c'est que la femme puisse consommer ou bien prendre le comprimé chaque jour à des heures fixes. Donc aujourd'hui, si vous le prenez à 12h, demain à 12h, ainsi de suite, tout en respectant en fait la durée de prise. À part le méthode à court durée d'action, à moyenne durée d'action, là nous avons les injectables. Donc on a un produit qui est actuellement très utilisé, je dirais, les Cyanapress, les DMPA sous-cutanés, et puis nous avons les dépôts Provera. Les dépôts Provera, c'est un ancien, oui. C'est vraiment une ancienne méthode, pour une durée de 3 mois pour les Cyanapress. Et puis, nous avons des méthodes à longue durée d'action. Pour les méthodes à longue durée d'action, nous avons des implants. Donc, il y a un dispositif sous forme de tige d'allumettes qu'on insère sous la peau de la femme à différents endroits, beaucoup plus au niveau du membre supérieur, du bras. Et ça libère des hormones continuellement. Ça peut prendre 5-10 ans. Mais nous avons les implants des 5 ans ici. Et puis nous avons des dispositifs intra-utérins, les DIU. Ça, c'est aussi une méthode hormonale à durée d'action. À part les méthodes hormonales, nous avons des méthodes barrières. Les méthodes barrières, il y a les préservatifs masculins, les préservatifs féminins. Nous avons des spermicides, mais les spermicides au Congo, c'est vraiment un peu rare. Mais ce qui est beaucoup plus disponible pour la communauté, nous avons le préservatif masculin et féminin. Nous avons aussi les dispositifs intra-utérins non hormonaux. Ça existe, qui prend beaucoup de temps vraiment pour, je dirais, sécuriser ou bien protéger la femme. À part ça, nous avons des méthodes chirurgicales où il faut intervenir, il faut avoir, je dirais, les consentements du couple, du monsieur et de la dame. Donc, chez l'homme, on fait la vasectomie, donc on ligature les canaux spermatiques, et puis chez la femme, on fait la ligature des trompes. Voilà d'une manière, je dirais, détaillée. C'est vraiment détaillé. On a détaillé les différentes méthodes contraceptives disponibles dans notre pays. Merci.
Et merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est toute une gamme des services, des pratiques à utiliser dans le cadre de la contraception. Docteur Léonie Marini, nous rappelons que vous êtes la responsable, chargée de programme planification familiale au Fonds des Nations Unies pour la population. Et on est en train de célébrer la journée mondiale de la contraception. Nous sommes le 26 septembre, il faut les rappeler. Et le thème pour cette édition est un choix pour tous, autonomie, intention, accès. Qu'est-ce que ce thème vous renvoie à l'esprit, docteur?
Oui, merci beaucoup. Le 26 septembre, C'est un jour qui a été déjà initié à partir de en 2007 et par des organisations qui œuvrent pour la planification familiale. Et de là, il y a l'OMS et l'UNFP qui se sont gérés et qu'ont mis ensemble pour voir comment s'impliquer pour sensibiliser et faire une éducation sexuelle et complète auprès des jeunes. Mais dès lors, cette action a pris l'ampleur pour prendre l'aspect de tout le monde, c'est-à-dire la contraception pour tous. Et dès lors, ça a toujours été célébré. Il y a un thème et qui nous aide à nous rappeler toujours, à sensibiliser pour voir l'importance de cette contraception qui a beaucoup de bénéfices auprès de la population, qui a beaucoup de bénéfices auprès du couple, auprès de la société et également au niveau du pays.
Mais en même temps aussi, on est en Afrique, nos habitudes sociales ne nous permettent pas d'aborder ce genre de sujets en famille. Parfois, c'est délicat, docteur.
Oui, tout à fait. Oui, nous appelons ça des barrières culturelles. Mm. C'est tout à fait. Nous sommes là, nous voulons toujours avoir beaucoup d'enfants, alors on n'a pas assez de moyens pour les garder, pour
les élever, éduquer, les scolariser
et tout ça. Alors, nous pensons que si la contraception, si on l'utilise très bien, à 30%, on peut réduire beaucoup des dégâts. Le premier dégât, c'est vers l'importance sanitaire. Ça donne une meilleure santé à la famille, meilleure santé à la femme, à l'enfant qui naît, et également au couple. Et disons, la première des choses, d'abord, c'est sur les grossesses non désirées. Ça a un effet direct. Ça réduit la mortalité maternelle à 30%. De même comme ça. Notre cible sont des clients. Quand on les utilise, ils ne sont pas malades. Ils ne doivent pas aller à l'hôpital. Donc, on les donne des méthodes. Et ces méthodes les aident à se protéger, à bien planifier leur naissance. Et également, les protègent aussi contre les IST. Nous avons ici, le docteur venait de parler, une méthode contraceptive qui est le préservatif, qui a une double action et ça préserve aussi contre les IST, également le VIH et aussi cette grossesse non désirée. Et nous voyons également c'est la contraception qui donne aussi un accès à la jeune fille d'être à l'école, de continuer et un jour de devenir grand et d'avoir aussi accès dans la société avec beaucoup de programmes d'études qu'elle va procéder, et à la femme également sa participation dans la société et être dans la société avec tous les moyens possibles pour le développement du pays. Donc ça part, on attend de là. Je donne un exemple. Une fille qui a déjà d'une fille qui a une méthode contraceptive, la retient plus à l'école. Elle va étudier et quand elle aura un enfant, elle pourra bien aussi le garder.
S'occuper de l'enfant, oui.
S'occuper de l'enfant. Mm. Donc ça, ce sont des bienfaits que nous on aimerait. Il y a cette autonomisation aussi de la jeune fille. Elle prend soin d'elle-même aussi. Elle peut décider de sa vie sexuelle à partir d'une contraception. Voilà, il y en a beaucoup ici, même sur le plan du pays, hein, au niveau du pays, quand on met en place un programme de planification familiale, on peut très bien orienter d'autres ressources, on peut les orienter vers d'autres secteurs. Et les couples, les familles ne vont pas aller à l'hôpital parce qu'ils sont tombés malades. Ils seront en bonne santé, ils vont travailler. Et les ressources qui doivent être orientées vers la santé peuvent aller dans d'autres besoins de la
famille.
Oui, il y a également un autre impact sur l'environnement. L'environnement, l'explosion démographique, quand ça ralentit, ça a un impact aussi. Quand il y a un boom démographique, nous trouvons que il y a un impact négatif sur l'environnement et il y a la dégradation même de cet environnement. Donc tout ça nous aide à voir qu'il y a vraiment, on peut citer beaucoup de cas importants comme ça qu'on trouve dans la société à cause d'une prise de cette décision de mettre un programme de planification familiale.
Docteur Tony, je me tourne vers vous. Nous rappelons que vous êtes directeur exécutif intérimaire de l'association pour le bien-être familial, ABF. Est-ce que l'information passe au sein de famille concernant les méthodes contraceptive. Quelle approche utilisez-vous pour sensibiliser et amener vos clients, hommes et femmes, à bien inculquer les notions de la méthode, des méthodes contraceptives?
Exactement. Ça, c'est parmi des problèmes que nous avons dans les programmes de planification familiale. Retenez que la première méthode contraceptive, c'est l'information. Quand les communautés ont l'information, c'est d'abord ça qui permettra à ce que les clientes ou bien les personnes puissent commencer à consommer les méthodes contraceptives. Donc l'information est vraiment très 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 capitale. Nous devons avouer que l'information dans notre pays pose problème. Les populations, les communautés ne sont pas suffisamment sensibilisées. Nous, en tant qu'association pour le bien-être naissance désirable, nous avons un mouvement actif des jeunes qui participent ou collaborent ou bien avec nous dans la sensibilisation, surtout de jeunes, parce que comme vous le savez, la population congolaise à 60-70% est constituée à majorité par des jeunes. Donc c'est une branche que nous utilisons vraiment pour la sensibilisation des jeunes. À part ces canaux, nous utilisons aussi les canaux des relais communautaires, des relais communautaires que nous avons à travers le pays. À travers le pays, il faut noter qu'ABEF est présente dans 11 provinces de notre pays, et au niveau de ces 11 provinces, nous avons des relais communautaires, donc des acteurs communautaires qui nous aident ou bien nous accompagnent dans la sensibilisation. Au-delà de ça, nous utilisons aussi des canaux, je dirais, modernes, donc les médias. À travers les médias, il y a aussi une grande partie de la population qui est sensibilisée, comme nous le faisons maintenant. C'est déjà une sensibilisation. Il y a une innovation, je dirais, numérique que nous avons mis en place, donc une application de télémédecine qui permet aussi à ce qui est l'information, la sensibilisation de la communauté à travers cette application. Et à part l'information, il y a aussi possibilité d'accès aux services, donc peut-être après l'émission, ou bien nous allons vraiment organiser un plateau spécial pour expliquer à fond l'utilisation de cette application. Voilà vraiment d'une manière sommaire les différents canaux que nous utilisons pour la sensibilisation, passer l'information à la population en rapport avec la planification familiale. Donc,
il y a une question qui me traverse l'esprit, parce que on constate que de plus en plus, d'ailleurs ça, on en a abordé dernièrement ici dans nos concernant les avortements clandestins, parce que de plus en plus, il faut qu'on se le dise, il y a un taux élevé des avortements clandestins, surtout dans les zones urbaines de la RDC. C'est parce que l'information sur les méthodes contraceptives ne passe pas suffisamment.
Exactement. Je pense que Dr Marini vient de détailler ou bien d'expliquer vraiment clairement les avantages de la planification familiale. Parmi les avantages aussi, c'est aussi éviter des avortements clandestins ou bien des grossesses non désirées.
Qui peuvent amener à la mort.
Qui peuvent amener à la mort. C'est là où nous répétons encore une fois de plus que la planification familiale occupe une place de choix pour éviter ces genres d'accidents, donc, c'est-à-dire des avortements clandestins. Là, c'est vrai, c'est un sérieux problème. Le manque d'information fait en sorte que la jeunesse ou bien la femme ou bien les femmes puissent recourir à des avortements clandestins.
C'est une émission à téléphone ouvert. Nous allons partir au standard cette fois-ci, écouter les auditeurs qui veulent également prendre la parole. Donc, permettez-nous de quitter le studio pour aller au standard. Et puis, nous allons revenir ici. Quelle est l'importance des méthodes contraceptives? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Nous sommes là dans les Haut-Katanga. Il s'appelle Achille. Ingénieur Achille, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Oui, bonjour Tati, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Oui, allô?
Nous vous écoutons, allez-y. Bonjour.
Oui, merci pour la parole. Alors, je voudrais poser la question aux invités. Je pense qu'il y a d'autres personnes. Je préfère ne pas faire tout ce que les invités ont pu énumérer comme méthode contraceptive. Les autres préfèrent faire la masturbation pour se préserver contre tout ça, des grossesses et des maladies. Là, je voudrais savoir si la masturbation constitue un danger, si oui, lequel. Voilà, là, c'est la question que je vais poser.
Merci beaucoup, ingénieur Achille. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Fungurume, toujours dans les hauts Katanga, pour donner la parole à Justin Nkulu. Monsieur Nkulu, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci, monsieur Tati Mapoku, bon retour au studio. Et je dis bonjour à notre invité et aux milliers des auditeurs qui nous suivent à ce net moment.
On vous écoute.
Je voulais aller tout droit à notre invité, mais c'est une vie privée des moines religieuses. Ce que j'ai toujours remarqué, les prêtres et mettent au monde à côté. Sur les sœurs, là, je n'ai jamais vu même l'erreur de l'abandon. Ils utilisent des méthodes contraceptives. Pour eux, c'est très efficace. Et là, des informations sur ça. Soit ils font l'abstinence complètement, ou soit ils ont des méthodes là. L'air, mais s'ils ont des méthodes de contraceptives, c'est très efficace. Ils peuvent communiquer ça et nous commencerons à utiliser. Et ensuite, il y a une composition chimique. Quand quelqu'un utilise les contraceptifs, il commence à manger beaucoup et il est guetté par l'obésité. Y a-t-il des méthodes ou des comportements à prendre, à adopter pour éviter l'obésité? Puisque la naissance désirable est préférée par tout le monde, mais ma femme est devenue obèse. Je risque même de la fouiller. On utilisait, elle mange beaucoup comme le petit cochon là. Alors, si l'invité peut nous aider à bien orienter leur nourriture après avoir pris des contraceptifs. Et ensuite, il y a des contre-indications que nous remarquons. Après un moment donné, elles commencent à faire leur cycle continuellement, qu'on appelle, je ne sais pas, dysménorrhée ou dans ce langage-là. Et elle va sembler être très pâle. Ça nous fait peur. Est-ce que notre invité il va nous orienter pour prendre de bons comportements?
Merci beaucoup, Monsieur Justin Koulou. Nous rappelons que c'est depuis Fungurume que vous intervenez et en même temps aussi, vous êtes allé dans l'intimité des prêtres. Les invités auront un mot à dire hein, par rapport à tes préoccupations. Merci beaucoup. Excellente journée au niveau de la ville de Fungurume. Cette fois-ci, on part à Bukavu, au sud Kivu, pour donner la parole à Éminent Mwanda, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour aux auditeurs de la radio Kapi, bonjour à l'invité, bonjour à la dame Naomi et la grâce de vos ailes partout, il est en train de nous capter.
Allez droit au but, Monsieur Éminent.
Oui, oui. Monsieur Tati, je sais très bien qu'à un certain moment, nous avions eu la chance de faire une étude sur les méthodes contraceptives, mais à RDC, je crois qu'il y a une mauvaise appréhension quant à ce. Avant de donner ma contribution, moi je voulais d'abord poser la question à l'invité. Quelles sont les conséquences fatales ou conséquences, les effets secondaires de certaines méthodes contraceptives qu'on peut appliquer à une femme? Parce qu'il y a certaines femmes qui, par exemple, si elles mettent des implants, ces implants-là causent une stérilité à la femme-là. Il y a aussi des femmes, si elles commencent à prendre de quoi là, des pilules. Tout ça, ça cause soit des perturbations. Mais je sais très bien que socialement, ces méthodes-là ont des conséquences d'amener le couple à une infidélité. Parce que quand une femme sait très bien qu'elle est bien protégée contre la grossesse, la femme directement était se livrer à une infidélité. Alors, à part ça, sur le plan sanitaire, quelles sont les conséquences des différentes méthodes de l'art? Je crois qu'elles sont nombreuses, mais par exemple, la pilule les implants. Quelles sont les conséquences sur l'organe de la femme et comment on peut, quelles sont les précautions qu'on peut prendre afin que l'individu, soit la femme, ne puisse pas continuer à souffrir avec des effets secondaires de ces méthodes-là. Parce que je peux vous solliciter, monsieur Tati, de référer encore cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses, mais souvent nous sommes toujours coincés par le temps. C'est ça, je voulais que l'invité nous aide à nous donner réellement des conséquences et le moyen de prévention de ces conséquences-là que les méthodes contraceptives peuvent causer à la femme surtout. Parce que je pense qu'il y a aussi le préservatif qu'on peut prendre comme méthode. Mais d'abord, en ce qui concerne le médicament, quelles sont les conséquences que cela engendre et les effets.
Merci beaucoup, Monsieur Minan Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous avez pris la parole. Excellente journée au Sud Kivu. Docteur Daniel, comment répondez-vous, Docteur Tony, pardon, comment répondez-vous au premier auditeur, ingénieur Achille de Lumbashi, qui a fait allusion à la masturbation, si on peut la considérer également comme une méthode contraceptive?
Merci, merci beaucoup. Je salue l'ingénieur à partir de la ville de Lubumbashi. La masturbation ne fait pas partie des méthodes contraceptives. En tout cas, ingénieur, c'est une pratique, je dirais, à déconseiller. Hein, à déconseiller. Je vais vous déconseiller vraiment si vous êtes dans ça, ou bien les proches, ou bien les amis qui sont dans ça. Je vous déconseillerais de recourir à la masturbation comme méthode contraceptive. D'abord, il faut savoir que ça ne fait pas partie de la liste des différentes méthodes contraceptives. Les inconvénients, vous savez bien que quand on est entré dans la masturbation, psychologiquement, vous êtes affecté. Donc c'est vraiment une affection, je dirais, psychologique. Et puis sur le plan clinique, sur le plan organique, vous courez beaucoup de risques, entre autres de faire, quand je parle d'une torsion testiculaire, je pense que les autres peuvent comprendre, mais c'est juste question de comprendre que les canaux qui facilitent les transports des spermatozoïdes peuvent s'étordre et puis aboutir même à la destruction de tout ce qui concerne les bagages ou bien l'appareil génital de l'homme. Donc c'est vraiment une pratique à déconseiller et très dangereuse pour la santé, et ça ne fait pas partie des méthodes contraceptives. Voilà ce que je peux dire en bref par rapport à sa préoccupation.
Général Achille, c'est vivement déconseillé de recourir à cette pratique, la masturbation. Il faut en parler également à tes proches. Je pense que vous avez trouvé la bonne réponse pour ta préoccupation. Avant de continuer de répondre aux questions auditeurs, il y a Blaise Saïdi qui est au standard et qui appelle depuis la ville de Kisangani, à qui nous disons bonjour.
Bonjour cher Tati. Bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne. Hein.
Merci beaucoup, c'est gentil. On vous écoute.
Merci bien. Cher Jody, cher Tati, pardon, les méthodes contraceptives occupent une place capitale dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive.
Les invités en ont parlé. S'il vous plaît, Monsieur Blaise, allez droit au but, s'il vous plaît, on va gagner le temps.
Ok, merci bien. La première question, quels sont les obstacles culturels et religieux à l'utilisation des contraceptions et comment les surmonter? C'est ça la première question. La seconde, quelle est la responsabilité de l'État? C'est-à-dire, ici, nous voyons le ministère de la Santé dans la sensibilisation et la mise à disposition des moyens contraceptifs. Troisième question, comment promouvoir l'accès équitable aux méthodes contraceptives dans les zones rurales et urbaines? La quatrième question, pour chiter à cette série de questions, quelle différence existe-t-il entre la contraception moderne et traditionnelle? Je me limite à ces quatre questions. Merci bien.
Merci beaucoup pour tes quatre questions pertinentes, Blaise Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Docteur Léonie, comment répondez-vous à notre auditeur Justin Koulou qui a pris la parole depuis la ville de Fungurume?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Justin. C'est vrai, vous parlez de prêtres, des religieuses, c'est
ça, la question était la plus importante rapport... concernant sa femme qui a recouru à ses produits et elle a commencé à manger comme un cochon d'après lui.
Oui, je pense que oui.
Les effets secondaires liés aux médicaments contraceptifs.
Il a raison, ce sont des hormones. Les hormones peuvent aller dans le sens de faire maigrir quelqu'un, soit de faire grossir. Alors, si vous pensez que, si elle pense que, et vous, notamment c'est vous deux, hein, parce que vous avez pris la décision de prendre cette méthode, et c'est mieux de rentrer pour qu'elle change une autre les méthode. Produits. C'est pour dire que ces produits ne lui vont pas. Parce que avant tout, avant de donner un produit, on fait un examen complet pour voir l'état la situation même de la maman. Et il y a des fois, si on est au-delà de 100 kilos, on ne peut pas donner une hormone, parce qu'elle va aller au-delà et attraper une maladie, par exemple une maladie cardiaque. Donc, il faut bien aller rentrer aux structures sanitaires, à la formation, pour qu'on vous change cette méthode.
Donc, il n'appartient pas au couple d'aller choisir la méthode.
Choisir la méthode, jamais.
Non.
Le choix est éclairé. Mmh. On vous montre toutes les méthodes. Après avoir montré les méthodes, c'est à vous maintenant de choisir. Mais avant de vous donner la méthode, on commence d'abord par un examen, un checking médical de la maman. C'était ça. La deuxième question, il y en avait encore.
Oui, la solution est déjà là parce que vous avez dit ils doivent retourner pour chercher une autre méthode qui convienne à son épouse. Docteur, il y a Emina Mwanda de Bukavu qui a fait allusion à une faible sensibilisation au sein des familles. Comment répondez-vous à sa préoccupation?
Oui, nous avons parlé de ça. L'information pose un sérieux problème.
Mais ce qu'il presque pas au sein de famille.
Un sérieux problème, que ce soit dans nos familles, que ce soit même au niveau pays, au niveau national. Nous, en tant que partenaires du gouvernement congolais, nous sommes conscients de ça et puis nous accompagnons le gouvernement dans ce sens-là. Il y a des questions, je dirais, de sexualité qui sont tabous dans certaines familles. Ça, c'est aussi un sérieux problème. Nous encourageons, nous demandons aux parents de parler de la sexualité avec leurs enfants. Ça permet à ce que l'enfant puisse avoir des informations justes et correctes au lieu d'avoir des informations, je dirais, erronées dans la société ou bien en dehors du cadre conjugal ou bien du cadre familial. Ça, c'est vraiment un sérieux problème. Là, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur, l'information pose problème, mais il a posé une question, peut-être, je sais pas si je n'ai pas noté, mais il est revenu toujours sur la question des effets secondaires. Donc il faut comprendre que quand une cliente opte pour une méthode moderne, hormonale, ce sont des hormones extérieures qu'on amène dans l'organisme. Mmh. C'est-à-dire, le temps que l'organisme s'accommode avec les hormones qui viennent de l'extérieur, ça peut s'exprimer sur le plan clinique par des effets dont il a fait allusion. Mais je dois rassurer la population congolaise que ce sont des effets ou bien des manifestations passagères. Après un temps, si l'organisme arrive à s'adapter à ses hormones, en tout cas, toutes ces manifestations-là vont passer. Mais comme venait de dire docteur Marini, s'il constate qu'après un temps, 2 ou 3 mois, il y a persistance de ces effets, ils sont appelés à recourir ou bien à revenir chez les prestataires pour qu'il y ait une modification ou bien un changement d'une autre méthode. C'est comme ça qu'il faut procéder et c'est ce que nous conseillons aux utilisateurs des méthodes de planification familiale à faire.
Et docteur Léonie, l'auditeur de Kisangani, Blaise, a fait allusion à la pesanteur, au pesanteur social dans nos habitudes de tous les jours. Comment arrêter ces idées reçues pour amener la population, les couples, à recourir aux méthodes contraceptives?
Oui, c'est vrai. Nous avons nos leaders communautaires, leaders religieux qui sont là au niveau de... D'abord, il y a des associations qui sont en train de faire le travail. Mais nous pensons que, selon les études, avec tout ce qu'on a déjà vu, les normes culturelles, nous le pouvons toujours les traiter à travers ces leaders communautaires qui adhèrent, qui sont des champions et qui doivent nous aider à faire comprendre à la population. Vous savez qu'un leader, quand il parle, il a toujours toute une population qui sait le suivre. Mmh. S'il parle très bien de la contraception, et toute cette population va le suivre, n'est-ce pas? Parce qu'il a tout intérêt à voir sa population être en bonne santé.
Et Blaise a dit toujours, docteur Tony, il a fait allusion à la responsabilité de l'État dans le cadre de la promotion des méthodes contraceptives en RDC. Que doivent faire les pouvoirs publics pour mieux informer la population sur ces méthodes?
Exactement. L'État et le gouvernement congolais ont une responsabilité par rapport à la planification familiale. Je pense que au stade actuel, là où nous sommes, l'État fait bien son travail dans les secteurs vraiment, je dirais, de la PF. Parce que l'État a l'obligation, bien la responsabilité de réglementer les secteurs. Nous avons des dispositions légales, des lois, des documents qui existent. Nous avons la loi sur la santé publique de 2018. Nous avons un arrêté ministériel de 2024, si ma mémoire ne me trahit pas, qui en fait recadre ou bien coordonne ou bien cadre l'administration ou bien l'utilisation des méthodes contraceptives. Au-delà d'une réglementation, je dirais, législative du secteur, le gouvernement aussi a fourni beaucoup d'efforts dans le secteur à travers je dirais le vote ou bien la validation d'une ligne budgétaire pour l'achat des contraceptifs. Donc ça c'est vraiment, je dirais, des exploits que les gouvernements vraiment a pu faire à ce qui concerne la contraception. Au-delà même de ce que je venais d'étayer ici, le gouvernement a aussi la responsabilité de coordonner tout ce qui concerne les activités en lien avec la planification familiale qui mène nous qui sommes des organisations non gouvernementales.
Et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté également a une responsabilité dans le cadre de la promotion,
sensibilisation
au sein des écoles, dans le cours de l'éducation à la vie, par exemple.
Exactement. Ça aussi, ça s'est fait. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas, l'arrière-pays n'a peut-être pas, les auditeurs qui nous suivent, ils vous risquent de me contredire en disant que chez nous on ne sent rien, mais je dois lui rassurer que c'est vraiment un travail en cours et jusque là en tout cas le gouvernement est en train de bien faire son travail, mais l'extension est en cours, je dirais.
Docteur Léonie Marini, à l'auditeur de Kisangani qui s'est plaint de presque de l'absence de la sensibilisation de ces méthodes, surtout en milieu rural, lui qui a pris la parole depuis la ville de Kisangani. On ne communique pas assez sur ces méthodes et puis elles ne sont pas assez disponibles dans l'arrière-pays.
Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Il y a cette disparité géographique, cette disparité qui fait que la plupart, parce qu'on a d'abord un problème d'accès au niveau rural, ces disparités entre le niveau urbain et le niveau rural créent vraiment un sérieux problème. Donc, il y a des structures qui œuvrent au niveau de terrain là-bas, qui peuvent donner, mais on a un grand problème. Je prends par exemple la logistique pour amener le produit au niveau de terrain. Ça crée déjà un problème. On est un pays avec assez de problèmes pour arriver au niveau de dernier kilomètre.
On a des zones très enclavées.
Voilà. La logistique et la chaîne d'approvisionnement des contraceptifs au niveau du terrain pose un problème. Donc, on peut donner au mois de janvier, mais arrivé à l'année prochaine, il y a les problèmes de logistique qui causent problème et on a des ruptures de stock, et ce qui fait que la communauté ne sait pas accéder très bien. Donc, c'est là le problème. Il a tout à fait raison, mais ce sont des défis à relever que nous devons y travailler avec le gouvernement. Voilà.
Nous retournons au standard pour donner la parole à M. Jeannot Louembwe, qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi. M. Jeannot, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Je salue M. Tati et salue les invités et tous les auditeurs.
On encourage en même temps les dames à prendre la parole, à appeler pour intervenir. Cette thématique concerne et l'homme et la femme, donc n'hésitez pas à nous appeler, chères dames. On vous donne la parole, allez-y.
Merci. M. Tati, dans une société où on a grandi avec comme idée que les enfants sont une richesse, tout en ignorant que pendant qu'ils sont en bas âge, c'est une charge. C'est quand ils grandissent et deviennent des personnes responsables que ça devient une richesse. La question que je m'aimerais poser aux invités, c'est que, après vulgarisation, parce que c'est une pression qu'on est en train de faire pour le bien-être des familles, quelle est la catégorie des personnes qui leur sont plus clientes? C'est cette catégorie rurale ou celle citadine, après vulgarisation, pour que les Africains comprennent que les enfants, quand ils sont à bas âge, ils ne sont pas une richesse, mais une charge. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Louembe. Moi, je dirais plutôt une responsabilité et non une charge. Mais lorsqu'on a des enfants, c'est plutôt une responsabilité. Excellente journée au niveau de la ville de Kolwezi. On passe cette fois-ci à Mbandaka. Nous allons donner la parole à Papi Moyo. Monsieur Papi, bonjour. Papi Moyo, est-ce que vous nous écoutez?
Allô?
Oui, on vous donne la parole, Papi. Bonjour.
Allô?
Nous vous donnons la parole. Est-ce que vous m'entendez, Papi?
Merci, merci, monsieur. Oui, je vous attends. Je vous attends. Merci, monsieur, pour le sujet. Merci aussi de m'avoir associé à ce niveau de débat et merci surtout aux interventions des invités. Et ce sujet, vraiment, c'est un sujet délicat à la mesure où aujourd'hui, sur le plan économique, le pays traverse vraiment des moments difficiles. Alors que sans ce genre de méthodes, nous pouvons faire des choses un peu bizarres, là. Vous le trouvez avec milliers d'enfants. Et que, aujourd'hui, ici, dans notre ville, de Mbandaka, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants comme ça, faute de moyens. Et on commence à appeler les autres enfants, M. Tati, des sorciers. Vous allez ici au parc, Joseph Kabila. La nuit, vous trouvez un million d'enfants.
Au centre-ville de Mbandaka, je vois là où il y a la piscine, il y avait la piscine là.
Ouais, ouais. Plein d'enfants qui sont là, en train de dormir par terre, comme ça, dans des paillotes, dans des bistrots. Ils sont, vous êtes là, vous venez pour prendre un verre. Ils viennent en groupe, donnez-nous l'argent. On n'a pas mangé. Vous leur demandez de quelle raison vous vous retrouvez ici. Dans la famille, m'a traité comme sorcier. Les parents m'ont abandonné. La famille, les autres sont morts. Vraiment, c'est un sujet spécial. Et moi, j'aimerais passer tout droit aux quelques soucis, alors qu'il y a les invités en place. Moi, j'aimerais demander ceci. Les choses que je veux évoquer ici, M. Etati, ce sont des choses purement pragmatiques. Et là, il n'y a pas des histoires, ce sont des choses pratiques. Ici, dans notre ville de Mbandaka, il y a des femmes qui sont passées dans cette méthode-là, et beaucoup, il y a eu des conséquences néfastes. Et ici, parmi les méthodes citées par l'orateur, quand il est bien suivi, parmi les méthodes néfastes, on dit où il a dit qu'il faut mettre, une injection dans sa main droite. Au niveau du clavicule. Je ne sais pas s'il a dit, mais ici, souvent, c'est une pratique qui est régulière. En tout cas, les dames. Vous avez dit que vous allez voir seulement une dame. Avant, ta rapport était à Tatonga. Ici, seulement, on donne une injection.
À Tatonga, oui. Nalipeka, c'est ça. Sur l'épaule, hein?
Voilà. Et voilà, sur l'épaule. Alors, moi, je vais demander à l'invité. Voilà comment moi, je vais demander à l'invité. Quels sont les risques? Pourquoi est-ce que les dames, quand ils mettent leur injection là? Après, le moment où ils ont besoin d'avoir des enfants dans le couple, ça pose toujours des problèmes. Ça pose des problèmes, des sérieux problèmes.
Alors, lorsqu'on enlève les stérilés, là.
Voilà. C'est là, elle dit à quoi? Ça, c'est la première question.
La deuxième, rapidement.
La deuxième, rapidement, j'ai dit, quel est l'âge peut-on parler à la sexualité aux enfants, surtout les enfants filles? À quel âge on peut commencer à leur parler, surtout nous, les parents, à la maison? Et la troisième question, avant de citer M. Jodin, les enfants filles à la maison, et qui grandissent, qui c'est parmi les parents qui est chargé et bien placé pour leur parler de la sexualité? Papa peut parler à leur fille de 14 ans, de la sexualité, mais c'est la maman qui est bien placée. Là, les invités vont m'aider, parce que ce sont des choses, je dirais tantôt, ce sont des choses pragmatiques qui sont à développer ici. Ce n'est pas des histoires. Et les invités doivent nous aider.
Merci beaucoup, Merci beaucoup, Monsieur Papi Moyo.
Je suis en train de finir.
Chutez rapidement, s'il vous plaît. rapidement.
Ok, je chute. Peut-on enseigner aux enfants non mariés, des filles, de cette méthode-là, les célibataires filles? On peut enseigner cette méthode-là pour faire quoi? Alors, en fait,
vous pensez que ça va les inciter à la débauche, c'est ça?
Pardon?
Vous pensez que si on sensibilise les jeunes filles non mariées aux méthodes contraceptives, ça va les inciter à la débauche?
Ah ben oui, ça pourrait peut-être les inciter au moins un mot pour y investir.
Merci.
Moi, je dirais aussi pour citer
rapidement,
Est-ce que peut-on enseigner ça à l'école? cette méthode-là à l'école, c'est tout des fouettes à l'école. Parce qu'à l'école, là, on sait qu'il y a des filles qui sont nouées, qui sont des célibataires. Est-ce que c'est utile de les assumer là-bas? Merci beaucoup, vraiment, à m'associer à ce niveau du débat.
Merci beaucoup, Monsieur Mboyo, et excellente journée au niveau de la ville de Mbandaka. Docteur Léonie, oui. On commence par comment répondre. Je lis d'abord le commentaire d'un auditeur qui nous a écrit depuis la ville de Goma. Il s'appelle Biakassi. Il dit, un jour, une dame est venue acheter ça, donc le médicament, après les rapports sexuels avec son partenaire à la langue, et elle s'est plaignait en disant comment elle peut concevoir et a pris les produits contraceptifs estimés efficaces. Mais ma question est de savoir, est-ce que c'est probable de tomber enceinte au moment où on s'est protégé? Soit il y a un contraceptif injectable dans les corps.
Ok, ça c'est à Goma, n'est-ce pas?
Ou l'auditeur de Goma, exactement.
L'auditeur de Goma. Donc, elle s'est procuré une méthode au niveau d'une pharmacie.
Et après, elle a fini par tomber enceinte.
Oui. C'est comme ça que je dis, c'est toujours bien d'aller dans une structure sanitaire. Parce qu'on va lui montrer comment prendre ses produits. Je suis sûre qu'elle est partie prendre un contraceptif post...
Oui, pilule d'urgence.
Pilule d'urgence. Après, elle pensait peut-être qu'après avoir fait le rapport, qu'elle ne tombera pas enceinte.
Que ça pourra rester dans le corps pendant 3-6 mois.
Que ça pourrait rester pendant 3-6 mois et que ça va détruire. Bon, le contraceptif, c'est, il y a quand même un pourcentage de 1% qui peut aller à l'échec. Mais c'est comme ça, il faut aller d'abord dans une structure sanitaire, on voit votre cycle et puis on vous indique quelle est la méthode
qui
appropriée
vous
qui vous va pendant cette période-là. Elle n'a pas peut-être pris ça pendant qu'elle a fait le rapport donc pour se bien protéger, ce qui fait qu'elle est tombée enceinte. Donc elle devrait s'attendre à tout. C'est mieux d'avoir une méthode avant de faire le rapport, là au moins vous êtes serein. Quand vous êtes en train de faire votre rapport, vous êtes dans la tranquillité. Je suis sûr, même quand elle prenait cela, elle s'y attendait à beaucoup de choses.
Docteur Tony, je reviens sur l'auditeur de Mandaka. C'est vrai, il a évoqué l'une des conséquences. Les parents qui ont beaucoup d'enfants, certains n'arrivent pas à couvrir les besoins et les enfants désertent les toits parentaux et puis ils se retrouvent en dehors des ménages. Il a évoqué les cas de Mandaka, mais il a également, est-ce qu'on peut en parler en famille? Et s'il faut en parler, est-ce que c'est l'homme qui est habilité ou c'est la femme qui est habilitée à évoquer ce sujet avec les enfants?
Ok. L'auditeur de Mbandaka, peut-être, je n'ai pas noté, mais il a posé...
Papi Mboyo, quatre questions, des très bonnes questions.
Quatre questions. D'abord, peut-être vous allez m'aider par rapport aux questions, mais j'ai retenu ceci. La première, il a voulu savoir est-ce que... c'est le papa ou bien la maman qui est censée parler de la sexualité à l'enfant, à la jeune fille, ou bien au jeune garçon. Je dirais c'est les deux. C'est la responsabilité du couple, que ce soit le papa et ou bien la maman. L'âge exigé pour parler de la sexualité. D'abord, il doit connaître que l'âge de la procréation et entre 15 à 49 ans. C'est l'âge où une femme peut tomber enceinte. Mais on a des exceptions. On a des exceptions déjà à partir de 12 ans. Si le papa ou bien la maman constate que l'enfant est déjà sexuellement actif ou bien à la capacité ou bien il y a un développement de son organe, cela n'empêche pas que la sexualité puisse déjà être discutée avec l'enfant.
Malheureusement, oui. Docteur Tony, ce sujet a les goûts d'inachevé parce que les temps se gagnent vite, on est presque à la fin de la tranche. Madame, vous avez un message en conclusion, docteur Léonie, en quelques secondes, parce que là on est déjà à la fin de la tranche et espérons que ce n'est pas la dernière fois.
Oui, le message est que c'est un message vraiment de plaidoyer. Un message de plaidoyer. Actuellement, nous sommes en train de passer un moment difficile. Le moment difficile avec la diminution des financements vous connaissez très bien sur le plan international, ce qui fait que ça aura un impact sur
les activités de terrain
et surtout les femmes, les filles, les couples qui ont besoin de méthodes. Alors pour cela, nous voulons qu'il y ait une mobilisation des ressources domestiques et que le gouvernement s'implique, tout le monde s'implique. Ça, c'est un appel de fond à tout le monde, à tous les partenaires.
Vraiment, merci à vous deux d'avoir été là et excellente journée. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous répondez à l'invitation d'Okapi Service.